Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, bienvenue tout particulièrement à vous si vous êtes là pour la première fois. Voilà, soyez vraiment les bienvenus parmi nous ce matin. Comment Dieu nous aime-t-il? Tu peux mettre la première slide, Roxane. C'est la question que nous voulons travailler ce matin. Si vous recevez l'actumérin par email, vous avez peut-être déjà vu qu'on allait travailler ça. Il y avait même de quoi travailler un petit peu à la maison, se préparer. Peut-être c'est que certains l'ont fait. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On aura assez de temps ce matin pour le faire. Comment Dieu nous aime-t-il? On va travailler ça ensemble. Les enfants, je vous laisse arrêter de jouer avec les bancs. On peut les remettre où ils étaient. Ok, puis on écoute ce qui se passe ici un petit coup, ce ne sera pas très long. Voilà, pourquoi sommes-nous là ce matin? Alors, on va travailler cette question comme je l'ai dit. On est aussi là pour se retrouver, passer du bon temps ensemble, c'est ok, hein, on a du plaisir à se retrouver, j'espère. En tout cas, moi, c'est le cas chaque dimanche, les enfants aussi. Si on ne va pas à l'église, ils sont tout tristes, donc c'est chouette. On a du plaisir à se voir, on a beaucoup d'amis, mais on est aussi là, bien sûr, pour célébrer Dieu, n'est-ce pas? Pour le remercier, pour dire qui il est pour nous. Hein, si on a eu un parcours, un chemin avec lui, on a vécu pas mal de choses et puis on a de quoi dire des choses le dimanche quand on se réunit, aussi toute la semaine bien sûr. Et puis on aimerait le faire de différentes manières ce matin. On va commencer par un chant, on va lui dire des choses en le chantant, avec ce chant qui dit Notre Dieu, qui s'appelle Notre Dieu. Merci au groupe qui s'est préparé pour ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre aujourd'hui? Ou plutôt, comment est-ce qu'on va le vivre? Parce qu'on avait à cœur avec Philippe de faire un culte un petit peu autrement. Alors, rassurez-vous, ça ne sera pas comme le culte de la rentrée, en tout cas pas autant autrement. Vous avez déjà remarqué que les chaises étaient toujours à leur place. Tout va bien, vous êtes rassurés, n'est-ce pas? Mais on a quand même envie de vous donner un petit peu la parole. En fait, voilà, on aime beaucoup Philippe, on aime beaucoup ce qu'il dit, mais on aime bien aussi vous entendre, vous. Et quelque part, ça ne doit pas être toujours le pasteur hein, qui enseigne, qui dit tout. On a envie qu'il y ait un petit peu plus d'interaction. On ne va pas le faire à chaque fois, mais voilà, ce culte-là, ça sera un culte où il y aura un peu plus de place pour l'interaction. Et puis, on va travailler, comme je l'ai dit, cette question, comment Dieu nous aime-t-il? Vous voyez qu'il y a déjà le numéro Slido qui est affiché. Pour les habitués, vous savez comment ça marche. Il y a une application sur le téléphone qui permet de poser des questions de manière anonyme. Et là, ça sera sur ce thème, justement. Donc, on le met déjà maintenant parce que ça va être un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Le temps de questions Slido ne sera pas après la prédication. En fait, il n'y aura pas vraiment une prédication. Il y aura un temps de parole qui sera à peine plus court de la part de Philippe. Et avant ça... Oh là là, il y en a qui rigolent. Hein. Avant ça, on aura justement ce temps où on a envie de partager un petit peu, réfléchir. Il y aura l'occasion de donner peut-être un témoignage par rapport à cette question-là, peut-être quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu. Et puis, c'est pendant ce temps d'interaction que vous pourrez aussi poser vos questions. En fait, peut-être que maintenant, vous avez déjà une question. Peut-être qu'à la maison, en regardant un petit peu ce qui était préparé, vous vous êtes dit, moi j'ai plein de questions. Vous pouvez les poser déjà maintenant sur Slido. Et puis comme ça, Philippe, il peut déjà un petit peu regarder les questions à l'avance, si jamais. Vous aurez donc l'occasion de poser vos questions avec le micro, si ça peut être public. Et puis si vous avez une question que vous n'avez pas trop envie de savoir qui la pose, eh bien, vous pouvez utiliser cet outil Slido. Voilà. Je lis mes notes quand même pour ne pas trop me perdre. Je crois que j'ai tout dit, hein. Donc voilà, on aura ce temps d'interaction, Philippe prendra la parole, et puis on aura finalement un temps de louange, où on espère qu'on pourra voilà, proclamer, dire des choses à Dieu par rapport à tout ce qu'on aura vécu aussi ensemble durant ce culte. Maintenant, on va écouter un chant, parce que c'est un chant qui est nouveau, qu'on ne connaît pas bien, donc on s'est dit qu'on n'allait pas le chanter ce dimanche. Il n'est pas dans le répertoire, mais Philippe et moi, on avait à cœur... voilà, d'utiliser, d'écouter ce chant durant ce culte. On a été les deux touchés par ce chant alors qu'on l'écoutait, qu'on le chantait dans le cadre du catéchisme il y a quelques semaines. Voilà, on a été interpellés par des paroles qu'on trouve fortes et puis qui vont très bien avec ce qu'on va vivre ce matin, qui sont en lien avec ce thème. Un chant qui s'appelle « En toi, je sais qui je suis ». Déjà là, il y aurait de quoi dire des choses, n'est-ce pas ?« En toi, je sais qui je suis ». Donc, on vous invite à l'écouter, il y aura les paroles qui seront affichées, à méditer un petit peu ce qui est dit, ce qui est chanté, et puis que ça nourrisse déjà votre réflexion et vos futures questions pour la suite.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à Jésus m'a sauvé, il m'a libéré.
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Plusieurs choses assez fortes dans ce chant, comme moi je trouve. Suivant ce qu'on a vécu, ça peut réveiller certaines choses. Hein. J'ai noté quelques phrases, je voulais en relever, mais en fait j'avais envie de relever tout le chant alors que j'étais à la maison. J'en ai retenu quelques-unes qui sont affichées. Hein. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. En toi, je sais qui je suis, titre du chant. Et puis, tu es pour moi, pas contre moi. Parfois, on aurait peut-être du mal à le croire, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse déjà réfléchir à ces choses-là. Après, il y aura encore d'autres questions. Pendant ce temps, les enfants, on va vous laisser aller dans vos groupes avec Laïs et Nicolas, c'est juste, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Pour ce que vous avez préparé, le temps qui a été investi, que Dieu vous bénisse. Allez-y, allez-y. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, on a ce fameux temps un peu interactif. On a vu qu'il y avait déjà une question qui est arrivée sur Slido, c'est super. Continuez à alimenter avec vos questions si vous en avez. Si vous avez des questions et que vous voulez les partager, voilà, faites-le aussi, faites-moi un signe, je viendrai vers vous avec le micro. Encore une fois, si vous avez un témoignage, quelque chose à partager sur ce sujet, vous êtes aussi libre de le faire. Et pour ouvrir la marche, si on peut dire, j'avais envie à Sylvie de s'approcher, qui a un témoignage sur ce sujet, qui a accepté de prendre la parole. Peut-être que ça vous mettra peut-être en route, ça vous donnera des idées, ou peut-être d'autres questions encore. Mais merci beaucoup Sylvie.
Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup pour ce chant. C'est un chant que j'aime beaucoup aussi, qui me touche particulièrement. Je pense que vous allez comprendre en écoutant ce que j'ai préparé. Durant toute mon enfance, il a été clair pour moi que Jésus était quelqu'un de proche, qui voulait, pouvait habiter dans mon cœur. Dieu, quant à lui, me paraissait distant, sévère, exigeant, intransigeant. Si son amour pouvait être éventuellement réel, il était rempli de conditions à mon égard. Je suis arrivée à l'âge adulte avec cette impression. Et par la suite, je pense que c'est vraiment Dieu lui-même qui a mis en route un travail en moi, en plusieurs étapes, pour m'aider petit à petit à entrevoir et recevoir une réalité différente en ce qui le concerne. Je vous citerai quelques-unes de ces étapes. Une des premières révisions significatives qui m'a permis d'entrer dans ce chemin de déconstruction et reconstruction pas à pas est celle-ci. J'ai réalisé que non, ce n'est pas vrai que je devais être toute propre, toute nickel, avant d'avoir le droit de m'approcher éventuellement de Dieu. C'était une idée reçue, un mensonge. Je croyais devoir faire des efforts et m'être moi-même nettoyée avant de pouvoir aller devant Dieu. J'ai alors compris que même si je suis toute crottée, éclaboussée de boue, couverte de boue, je peux courir vers Dieu et il m'accueille à bras ouverts. Cette révélation a commencé de modifier, transformer, restaurer l'idée que je me faisais de ce Dieu sévère et lointain. Une autre révision concerne le regard de Dieu sur moi. J'ai entendu et cru très tôt que Dieu voit tout, qu'il sait tout de moi, toutes mes actions, toutes mes pensées, mes intentions, mes émotions. Et quand j'étais jeune, ça me paraissait très menaçant, très négatif, très culpabilisant. Dieu m'a aidé à comprendre qu'en réalité, c'est bienfaisant. Il sait tout. Il est au courant de tout. Il me connaît tellement parfaitement que devant lui, je peux être moi-même. Je n'ai pas besoin de faire semblant, de me nettoyer, de me parer, de me maquiller ou porter un masque. Je peux être moi. Et c'est tellement, tellement précieux. Dans ce processus, j'ai vécu un moment particulier où j'ai vraiment ressenti le regard de Dieu sur moi. Dans le film Avatar, il y a cette salutation qui me touche et que je trouve puissante. Je te vois. J'ai vécu cela de la part de Dieu lors d'une balade en forêt. Je te vois. Je vois qui tu es. Je vois tes forces, tes vulnérabilités, ton identité, tes capacités. Je te vois comme je t'ai voulu. Tu me fais plaisir et je t'aime tellement comme tu es. Cette déclaration d'amour de Dieu m'a bouleversée. La dernière chose que j'ai envie de vous partager est une conviction qui a grandi et continue de grandir en moi. Dieu m'aime et il est toujours, toujours, toujours à mes côtés, à tous les moments de ma vie, dans mes difficultés, mes joies, mes luttes, dans mes tempêtes, dans la mêlée. Il est avec moi, pas spectateur dans les gradins. Non, non, non. Il est avec moi. L'amour inconditionnel de Dieu, son regard sur moi, savoir qu'il est avec moi à chaque instant, que je lui parle ou pas, que je sois en accord avec lui ou pas, il est là. C'est ce qui me fait tenir. J'aimerais terminer par ce cri du cœur qu'on a entendu il y a 2 semaines, ce cri du cœur des disciples d'Emmaüs. Merci Denise. S'il te plaît, reste avec nous. Et merci, parce que tu restes avec nous. Tu restes avec moi et tu restes avec chacun de mes proches.
Merci Merci Sylvie. Voilà, on n'aurait pas besoin de prédication, n'est-ce pas? Il y a déjà énormément de bonnes choses à méditer, à digérer peut-être. Peut-être ça vous fait réagir, hein? Peut-être vous dites oui, moi aussi j'ai vécu ça, ou peut-être, alors moi pas du tout, j'en suis encore loin. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole d'une manière ou d'une autre? Soit pour poser une question, soit pour dire votre colère, pour dire oui, moi aussi, j'ai connu quelque chose de similaire ou autrement. Peut-être on peut mettre les... Roxane, tu peux mettre les questions, la slide suivante. Ouais. Les questions qui vous avaient été envoyées par email. Quel mot utiliser pour parler de l'amour de Dieu? Comment cet amour se déploie-t-il? Existe-t-il des limites à cet amour de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait faire que Dieu m'aime plus, m'aime moins, ne m'aime plus? Est-ce que je peux être vraiment sûr de cet amour de Dieu? Qu'est-ce que ça change dans ma vie de me savoir inconditionnellement aimé de Dieu? Est-ce qu'il y a certaines de ces questions qui provoquent des choses en vous?
C'était une période où j'avais pas la forme, je doutais, c'était une période difficile de ma vie. Et je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas top, c'est pas possible que Dieu m'aime vraiment. Et puis, dans un culte, il y a bien des années, on était encore à la chapelle, une chère sœur, profondément dans la foi et une femme de prière, a cité le verset d'Ésaïe 54. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et ce verset m'est allé vraiment droit dans le cœur et ça a changé complètement. J'étais persuadée que Dieu m'aimait vraiment. Et dans plusieurs périodes de ma vie, je suis revenue à ce texte bienfaisant et qui m'assurait de l'amour de Dieu.
Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Encore une fois, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui hésitent.
Pour moi, quand on parle de l'amour de Dieu, les deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est être guidé et ne pas être seul. Et ça, c'est hyper précieux.
Merci. Quand Sylvie partageait, je me suis retrouvé dans certaines des choses qu'elle disait. À l'occasion, je vous partagerai certainement mon témoignage de manière plus complète, mais certains le savent, hein, j'ai regardé de la pornographie, beaucoup de pornographie pendant des années, plus de 20 ans. Et quand elle parlait de boue et puis de devoir se laver quelque part avant de se présenter devant Dieu, moi j'ai vécu ça des centaines de fois en fait, peut-être des milliers, je ne sais pas. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que j'aille avec ma boue devant Dieu et que c'était ok, et qu'il m'accueillait. Alors, il n'était pas heureux de ce que je faisais, hein, ça c'est sûr, il était triste, il pleurait certainement, mais il ne m'accusait pas. Ça c'est pour moi une grande différence. L'accusateur des frères, nous dit la Bible, c'est Satan, n'est-ce pas? C'est pas Dieu. Donc oui, Dieu est triste de nos actions, on doit faire des bons choix, voilà, y a notre part quelque part, mais n'attendons pas de nous présenter devant Dieu parce que lui nous accueille réellement, je le crois, quelle que soit la situation de notre cœur, de notre vie, quelle que soit la boue sur nos pieds, il nous accueille. Voilà.
Moi, je suis née dans une famille où on allait à la messe tous les dimanches. On se communiait, bien sûr. Mais voilà, par habitude, mais je ne ressentais rien parce que je faisais la prédication, je faisais ce que de ma vie, ce que je voulais, hein, de toute façon. Mais j'allais à la messe tous les matins, tous les dimanches. Hein. Mais c'est quand vraiment, où il y a dans la Bible, c'est marqué que Dieu me connaît depuis le jour qui m'ont conçu mes parents. Lui me connaissait, mais je ne savais pas. Je l'ai su maintenant, à l'âge mûr, très mûr même, que Dieu m'aime et que je peux tout lui dire et qu'il ne m'accuse pas, voilà. Et si je fais des choses très bien, il m'aime plus. Ou si j'en fais moins, il m'aime moins. Il est Dieu, il m'aime depuis ma naissance et je peux lui parler maintenant. Maintenant, je sais quoi lui dire, mais pas des choses qui me sortent du cœur. Des choses, quand j'ai la peine, je lui dis, quand j'ai la joie, je lui dis, le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, il est là, à côté de moi. Et maintenant, je le connais vraiment, et je suis son enfant. Merci Seigneur.
Voilà, il y a le flow maintenant qui est... Non.
Alors moi aussi, j'ai grandi avec la peur de Dieu. Mais ça ne m'a pas empêché que pendant 7 ans, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie. Jusqu'au jour... Mais la crainte, la peur, hein, m'a quand même gardée de un moment... de me faire revenir à lui. Mais... Et par une circonstance difficile, j'ai vraiment cherché Dieu. J'étais interpellée par ces gens qui étaient prêts à perdre leur liberté et même leur vie pour Dieu. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Parce que moi, ça me cassait les pieds d'aller tous les dimanches et puis d'y croire, mais en fait, ça ne m'apportait rien, ça ne m'embêtait plus et tout. Et puis je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Et petit à petit, Dieu a répondu au désir de mon cœur. Et il y a une chose qui m'a vraiment aidée à comprendre que Dieu m'aimait, c'est de méditer sur la croix. Vous savez, moi je suis maman, et de réfléchir et de penser que Dieu a donné son fils. Pour moi, comprendre que Jésus a souffert, ça c'est logique. On comprend, disons, plus ou moins. On ne peut pas comprendre la profondeur, on ne peut pas comprendre la grandeur, mais on peut comprendre qu'il a souffert et qu'il nous aime. Mais donner, moi ça me touche toujours, donner ce qu'on aime le plus pour que je sois sauvée, c'est ça qui m'a donné la révélation de l'amour de Dieu pour moi. Et depuis, je sais qu'il n'est pas comme moi, qui aime moins, qui aime plus, qui aime toujours. Et que je peux aller à lui tout le temps, demander pardon, me réjouir, m'émerveiller. Écoutez, c'est la plus belle chose et j'encourage tout le monde à le découvrir.
Merci. Dernier témoignage.
Je ne sais pas si ça vous arrive, parce qu'il paraît que c'est bien de dire quelque chose comme ça. Si ça vous arrive, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez un acteur, une actrice à la télé, un sportif, et je ne sais pas, il y a quelque chose chez certaines personnes que vous trouvez attirant. Vous dites, ah, cette personne, j'aime bien cet acteur, j'aime bien cette actrice. Cette personne, elle est vraiment comme ci, elle est vraiment comme ça. Et puis en fait, Vous commencez à vous intéresser à cette personne, et en fait, c'est pas du tout ce que vous pensiez en fait. Donc en fait, des fois, on a l'impression que plus on connaît les gens, plus ça devient difficile de les aimer. bon, mais vous n'avez certainement jamais vécu ça. Et en fait, j'aimerais dire qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je trouve important que Dieu, qui essaie toujours de nous apprendre quelque chose, lui, quand il nous aime, c'est pas juste comme ça, il nous aime, j'aime bien la glace vanille. Il essaye aussi de nous apprendre quelque chose. Et je crois qu'il y a un verset qui dit « Celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas aimer son prochain », quelque chose comme ça. Et moi, je trouve incroyable qu'en fait, quand il nous aime, il est en train de nous apprendre à aimer notre prochain tel qu'il est. Voilà.
Voilà, le temps passe trop vite, ça m'embête. Comment est-ce qu'on gère les questions slides? Il y en a d'autres qui sont arrivées. Tu aimerais, toi, prendre un petit temps de parole pour ça ou plus tard?
Oui, prenons encore quelques minutes.
Ok. Parce qu'il y a encore des gens qui voudraient dire quelque chose. Peut-être que vous entendez tout ça puis vous dites, alors, moi, pas du tout, quoi. Cet amour de Dieu, je ne le ressens pas. Oui, théoriquement, hein, je le lis. C'est peut-être des années même que j'entends que Dieu m'aime. Mais dans la réalité, désolé, mais j'en suis pas là. C'est ok, hein. Je pense que vous n'êtes pas seul. Moi, je me suis souvent posé la question. Hein, genre, on chante beaucoup de choses alors qu'ils sont écrites de manière poétique. Hein. Je vois ta face, je sens ton amour. Voilà. Et que sais-je encore? Et moi, souvent, je me suis dit, ben oui, mais non, en fait. Une chose que j'ai apprise dans ma vie, alors, il m'est arrivé de ressentir l'amour de Dieu. Voilà, directement, j'ai envie de dire, hein, une action de son esprit en moi qui voilà, fait fondre quelque chose de dur et puis qui, voilà, souvent il y a des larmes et puis voilà, je me sens réellement aimé. Mais ça m'est arrivé peut-être deux fois dans ma vie. Alors c'était merveilleux, hein, mais j'aimerais bien que ça arrive plus souvent. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas ressenti son amour d'autre manière. Et pour moi, une des manières au travers de laquelle Dieu révèle son amour, c'est au travers des uns et des autres. C'est au travers de vous, les frères, les sœurs. Moi, j'ai reçu énormément de choses, surtout à une période charnière de ma vie, par des frères et sœurs à l'église de la Chaux-de-Fonds où j'étais. Ça a transformé ma vie. Et je me suis senti aimé de Dieu, mais en fait, cet amour se manifestait au travers d'eux. D'où l'importance de nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Ou... Ouais.
Quand j'étais plus jeune, je pensais que les gens étaient gentils avec moi, m'aimaient parce que c'était écrit dans la Bible qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas que j'étais quelqu'un d'aimable, mais c'est parce que c'était écrit qu'il y avait un commandement. Et puis un jour, j'ai ressenti très très fort l'amour de Dieu. Et ce regard-là a changé. Et je suis arrivée au travail le lendemain en me disant, mais cette personne-là, elle est gentille avec moi parce qu'elle trouve que je suis quelqu'un avec qui on peut être gentil. Et petit à petit, parce que j'ai cru que Dieu m'aimait, j'ai pu croire que des gens m'aimaient et j'ai pu commencer à apprendre que l'amitié qu'on me témoignait, c'était vrai. Il a fallu jusqu'à 40 ans pour croire que quelqu'un aurait du plaisir à venir à mon anniversaire.
Oui, il faut du temps pour certaines choses, n'est-ce pas?
Comment j'ai appris que Dieu m'aimait inconditionnellement? Vous savez, la plupart qui me connaissent, que j'ai émigré de Tchécoslovaquie communiste pour chercher la liberté en Suisse. Avec mon père, on avait des relations privilégiées, je pourrais dire. Il m'aimait, et je sentais qu'il m'aimait, et puis je l'aimais, moi, par-dessus tout. Et pourtant, je l'ai quand même quitté, non seulement parce que je me sentais je sentais la nécessité de partir, de fuir l'oppression. Mais j'ai senti surtout l'amour de mon père inconditionnel parce que c'est lui qui m'a poussé à l'émigration, entre autres. Mais ça, j'ai compris seulement quand je suis devenu non seulement adulte, mais père. Comment c'est possible que Dieu nous aime inconditionnellement? Parce que j'ai vu que mon père, qui n'était certainement pas loin, en tout cas, d'être parfait, m'aimait inconditionnellement. Et ça, je dois dire, quand j'y pense, chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Cet amour inconditionnel du Père.
Merci. Philippe, tu aimerais essayer de t'attaquer à une ou deux questions ou juste partager ce que tu as préparé?
Ouais. Très constructive, je trouve, que vous faites de l'appui Slido. Donc, pour rappel, hein, vous pouvez poser des questions et vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Je crois qu'il y a six questions qui ont été posées.
Et je vais peut-être juste les prendre dans l'ordre des votes, qui est assez révélateur. Enfin, la façon dont les questions s'agendent me semblent assez révélatrices. Première question. Que faire de tous les textes sévères disant que celui qui ne fait pas ceci ou cela, il n'est pas digne de moi ou il est jeté dehors? Ce qui me semble révélateur, juste avant d'essayer de répondre à cette question, c'est qu'alors que nous essayons de parler de l'amour inconditionnel de Dieu, alors que nous l'avons chanté ou chantonné ou laissé un peu résonner en nous avec ce nouveau chant « En toi je sais qui je suis », la première question qui est posée est celle qui a le plus de vos votes et toutes celles qui suivent sont beaucoup plus en lien avec la sévérité de Dieu qu'avec la bonté de Dieu. Et je trouve juste à les lire que c'est révélateur. C'est révélateur de mon propre cœur, à moi. C'est révélateur de ce que nous vivons souvent dans le monde évangélique. Comme si l'amour inconditionnel de Dieu, avec tout ce qu'il implique, était second. Et ce qui est prioritaire, ce serait sa dureté, ses exigences, sa sainteté. Et je trouve ça révélateur. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat, d'autant que je le vois dans mon propre cœur. Que faire de tous ces textes sévères, disant que celui qui ne fait pas ceci ou cela, il n'est pas digne de moi ou il est jeté dehors? Que faire? D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça de ces textes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que je ne suis pas sûr qu'il y en a tant que ça. Et en tous les cas, je peux vous garantir qu'il y en a 10 ou 20 fois moins que de textes qui parlent de l'amour de Dieu, inconditionnel pour nous. Mais que faire de ces textes? Parce qu'ils sont là. Alors il faut les prendre, comme on dit, nous, dans leur contexte. Le texte et le contexte. Et vous pourriez observer que dans 9 cas sur 10, si ce n'est 10 sur 10, ces textes qui existent sont dits à des gens religieux. Pas à des gens qui sont dans une démarche sincère de compréhension, de l'ouverture à Dieu. Mais à des gens religieux, des pharisiens, des prêtres, des gens qui pensaient, avec la Bible, avec l'Ancien Testament en particulier, que l'on gagnait la faveur de Dieu avec ce que l'on fait. Pas avec ce que Dieu fait, mais avec ce que l'on fait. Et c'est un cercle vicieux que Dieu essaie de mettre devant nos yeux. Parce que quand est-ce que nous aurons assez fait pour racheter nos fautes? à quel moment y parviendrons-nous ? Jamais. C'est insuffisant, c'est peine perdue. Et je crois que ces textes qui existent sont là pour dire à des gens religieux, et nous en sommes, les gars sérieux, arrêtez de penser que vous allez gagner la faveur de Dieu par ce que vous faites. La faveur de Dieu, elle vous est acquise. Le reste suivra. Parce que c'est une force tellement puissante intérieurement que le reste suivra. Mais je ne crois pas que ces textes soient si nombreux, et quand ils apparaissent, regardez le contexte, ils s'adressent à des gens religieux, à des gens pour qui la façon de se comporter permet de gagner la faveur de Dieu. C'est le salut par les... Or, nous croyons que le salut est par la grâce, au moyen de la foi. Première très bonne question. Une deuxième question. Pourquoi l'amour de Dieu est-il inconditionnel avec les actes des hommes actuellement? Comment comprendre cet amour? S'il me reste 10 minutes après, ça fera partie de l'impulsion, donc je ne vais pas anticiper sur l'impulsion. Mais c'est une très bonne question. Pourquoi l'amour de Dieu est inconditionnel? Allez, je vous le tease. Parce qu'il est Dieu. Et que Dieu est... Et si Dieu est amour, son amour est inconditionnel, sinon Dieu n'existe pas. On y reviendra. Que veut dire être esclave du péché? Pour moi, c'est du jargon. C'est quoi le péché? C'est bien, hein, vraiment, j'admire. Je suis tellement content qu'on puisse avoir ces petits moments comme ça d'échange. Déjà, merci de dire qu'il y a du jargon. Des fois, il y a du jargon. Et là, être esclave du péché, c'est un jargon biblique. Et encore une fois, le jargon biblique, des fois, on a besoin de l'expliquer par son contexte, par les mots de l'époque, voir si le vocabulaire aujourd'hui pourrait être un peu adapté. Être esclave du péché, c'est être esclave du mal qui nous caractérise depuis la chute, depuis nos... premiers parents, Adam et Ève. Je ne vais pas faire venir les jeunes du groupe de jeunes, mais c'est ce dont on est en train de parler depuis 2 vendredis. Hein. C'est juste, hein, un peu, on parle de ça quand même. D'ailleurs, s'il y a des jeunes parmi nous qui ont entre 15 et 20 ans, on a un super groupe de jeunes à quinzaine le vendredi. Et actuellement, donc, on parle un petit peu de ça avec Adam et Ève. Être esclave du péché, c'est se tenir à notre condition initiale. C'est accepter d'être lié par ceux qui nous diminuent. Et souvent, ça se manifeste par des actes qui montrent qu'on est esclave du péché. Par exemple, si naturellement, moi, je suis un homme colérique, ce que je suis, hélas, être esclave de la colère, c'est la laisser s'exprimer. Et c'est ne pas accepter que Dieu vienne changer cette colère dans quelque chose qui le caractérise beaucoup plus. Peut-être comme la douceur, puisqu'il est aussi écrit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Être esclave du péché, c'est peut-être être esclave d'une habitude. Thierry a dit 2 mots de son témoignage. Je pourrais vous parler, je pense, en même terme que lui, de ce qui, pendant des années, m'a retenu captif, avec la misère qui s'ensuit. Mais Dieu ne nous veut pas misérables. Dieu nous veut debout, lavé. Dieu nous veut à lui. Pourquoi vivre en concubinage est un péché? C'est dingue. On parle de l'amour de Dieu inconditionnel pour nous. Et vous et moi, parce que cette question, elle est de quelqu'un, elle est votée 4 fois, 1000 fois je me la suis posée, et ça me semble aller en choc avec notre thème du jour. Et pourtant, elle est posée. Et je trouve assez impressionnant et révélateur qu'une des premières questions qui se posent quand on parle de l'amour de Dieu, c'est ce qui pourrait nous en éloigner. Et cette question du concubinage me semble essentiellement théorique. Est-ce bien constitué dans l'Écriture que vivre en concubinage est un péché? Alors, je n'ai pas 3 heures devant moi, hein, mais il faudrait prendre les textes pour voir si c'est constitué ou si c'est nous qui inventons des péchés pour mettre des gens dehors, pour mettre des gens dans cette case et pouvoir dire, regarde, lui, elle, est dans cette case, c'est péché. Mais moi qui n'y suis pas dans cette case, parce que moi je suis marié, ça a roulé pour moi, moi c'est bon, pas péché. Elle, lui, péché. On ne peut pas essentialiser les gens. Et on n'en peut pas, en tout cas, essentialiser les gens à ce qu'ils font. Si on essentialise les gens, c'est pour dire ils sont à Dieu. Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Et s'il y a des trucs à régler, et je ne commencerai peut-être pas par le concubinage, mais s'il y a des trucs à régler, eh bien dans sa bonté, qui est associée à son amour, Dieu le fera. Dieu le fera. Il ne faut pas essentialiser les gens. Faut-il lire la Bible chaque jour? Et voilà, une obligation là où on parle de l'amour de Dieu pour nous. Il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 10 ans, je vous aurais dit oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin d'un petit déjeuner avec du pain frais, eh ben, tu as besoin d'un petit déjeuner avec une parole fraîche. Et tu te mets une pression, je me suis mis une pression de dingo. De dingo, là où Dieu n'en met pas. Mais là où l'Église, là où des fois notre conscience, là où le regard des autres vient mettre une pression. Il ne faut pas lire la Bible tous les jours. Il ne faut pas. Mais quand j'aime quelqu'un qui m'aime, moi j'ai besoin d'entendre sa voix. J'arrive pas à passer une journée sans entendre la voix de ma femme, même quand je suis à des kilomètres. Et puis même quand je l'ai entendue à 6h15 le matin, je suis très heureux de l'entendre à 11h, et à 13h, et à 17h, et à 22h30, avec des tonalités différentes. Mais je dois pas entendre un mot d'amour de ma femme, de mes enfants, de mon meilleur ami, de mon concubin. Je dois pas. J'en ai besoin. Moi, j'ai besoin d'entendre Dieu me parler. Et je crois qu'il le fait essentiellement et avant tout par sa parole. Il le fait par d'autres moyens. Il le fait par les frères et sœurs, vos témoignages ce matin. Ils le font par les poètes qui écrivent des chants et qui arrivent à mettre des mots sur ce que j'arrive pas, moi, à exprimer. Il le fait par les circonstances. Il le fait par un livre qui me bouleverse. Par une rencontre étonnante, par la création, par une maladie où il m'arrête, par une réponse précise qu'il me donne. Mais avant tout, il le fait pour sa parole, par sa parole. Et moi, j'en ai envie, j'en ai besoin. Mais il ne faut pas. Ne mettez pas une pression là où il n'y en a pas. Ouvrez vos chakras. Laissez Dieu vous parler là où vous en avez besoin. Si je ne suis pas avec Dieu, vais-je en enfer? Je crois qu'il n'y a rien de pire que des hommes et des femmes, encore une fois, qui essentialisent et disent « lui, il est avec Dieu, puis elle, elle va en enfer ». Il y a deux questions là derrière. C'est quoi être avec Dieu? Et c'est quoi l'enfer? Être avec Dieu, c'est un chouïa mou, être avec Dieu. Permettez-moi de reprendre l'exemple d'être avec ma femme. Si je disais « je suis avec Heidi », ça signifie quoi ? Mais j'aime Heidi. Je fais des trucs avec Heidi. J'écoute Heidi. De temps en temps, ça coince avec Heidi. On a des enfants avec Heidi. Elle me manque, Heidi. Parce qu'elle bosse toute la journée. Un dimanche, mince. Un de plus. Être avec Dieu, c'est l'aimer, c'est l'écouter, c'est bagarrer, c'est s'attendre à lui, c'est avoir une descendance avec lui, des projets, des envies, c'est se projeter. Être avec Dieu, c'est quelque chose de fort, c'est qu'on le choisit, c'est qu'il a notre préférence, c'est qu'on se jette dans ses bras, c'est qu'on lui demande pardon. Puis l'enfer, c'est quoi ? Vous avez 3 heures ? Non. Ben l'enfer, c'est être loin de Dieu. L'enfer, c'est la peine, c'est la tristesse, c'est le mal. C'est ce que vivent des gens au quotidien dans la bande de Gaza, en Ukraine, dans la région des Grands Lacs, au Congo. L'enfer, c'est quand on perd quelqu'un, quand on perd une amitié. Est-ce qu'on a envie de vivre là-dedans ? Vous avez envie de vivre en enfer, vous ? Moi, je vais vivre avec Dieu pour le bon, le beau, le lumineux. Alors, si je ne suis pas avec Dieu, oui, je reste en enfer. Je reste en enfer. Je reste avec mon égoïsme, avec la petitesse des choses, sans perspective. Je reste en enfer et je le choisis. Alors que je suis libre de choisir d'aller avec Dieu, de l'aimer, de le laisser me changer. Je m'arrête là pour les questions Slido et je propose juste une petite respiration. Et ce qu'on pourrait faire pour la petite respiration, on pourrait se lever. J'ai entendu un magnifique texte dans la bouche de Sylviane qui a été écrit en chant et on va essayer de le prendre a cappella, à moins que Jean-Pierre, quand les montagnes comme ça, tu l'as en... Jean-Pierre, Jean-Christophe, vous l'avez en... Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Je ne sais pas si on l'a dans la base de données. Oh purée. Eh mais Roxane aux commandes, sérieux, ça change la vie. Merci Roxane. Si on peut juste couper le micro pendant... quelques instants. Roxane, je ne sais pas s'il est possible juste d'avoir mon... Merci. ce que nous avons souhaité avec Thierry pour ce matin, c'est de nous aider, de vous aider à croire que Dieu ne vous aimera jamais moins. C'est une chose de croire que Dieu a effacé et pardonné toutes nos anciennes fautes, avant notre nouvelle naissance, avant que nous nous soyons convertis, avant que nous ayons commencé à marcher avec lui. C'est une chose de le croire et c'est déjà là un miracle de miséricorde d'une richesse insondable. Dieu nous a pardonnés. Mais après tout, ces péchés-là ont été commis alors que nous étions, disons-nous, encore dans les ténèbres. Nous n'étions pas encore devenus de nouvelles créatures, fraîchement investies du pouvoir de marcher dans la lumière et d'honorer le Seigneur par nos vies. C'est donc autre chose de croire que Dieu continue tout aussi librement à effacer toutes nos fautes actuelles commises après notre nouvelle naissance. Alors peut-être qu'en tant que croyant, croyante aujourd'hui, nous savons que Dieu nous aime. Nous le croyons vraiment. Ou nous voudrions le croire. Mais si nous examinions de plus près notre relation réelle avec Dieu à chaque instant, beaucoup d'entre nous auraient tendance à croire qu'il s'agit d'un amour teinté de déception. Il nous aime, ok, mais c'est un amour agité, compliqué, déçu. Nous le voyons nous regarder avec une sorte d'affection, de condescendance presque, paternelle. Mais vous savez, les sourcils légèrement levés. Dieu qui se dirait, comment peuvent-ils encore échouer après tout ce que j'ai fait pour eux? On l'imagine se demander ça. Comment est-ce qu'il peut encore se planter après tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle? Nous péchons maintenant contre la lumière, diraient les puritains. Nous connaissons la vérité, nos cœurs ont été fondamentalement transformés et pourtant on tombe encore. Et les épaules de notre âme restent affaissées en présence de Dieu et les tréfonds de notre cœur s'assèchent. Et une fois de plus, ça c'est le résultat de la projection de nos propres capacités d'aimer sur Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre son cœur véritable. Comment pouvons-nous croire que Dieu ne nous aimera jamais moins? C'est là que moi j'ai besoin d'une parole d'écriture, pas d'un sentiment parce qu'il me piège, pas d'une impression vague, pas d'une théorie, mais j'ai besoin des Écritures. Et c'est pourquoi Romains 5, 6 à 11 figure dans la Bible. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes, à plus forte raison. Serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils? Et il y a plus encore. Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Une conscience chrétienne, c'est une conscience qui a été sensibilisée. Maintenant que nous connaissons Dieu comme notre Père, maintenant que nos yeux ont été ouverts sur notre rébellion coupable envers le Créateur, nous ressentons plus profondément que jamais la laideur du péché. L'échec fait frémir notre âme comme jamais auparavant. Ainsi, après un paragraphe où Paul se réjouit des bénédictions de la rédemption des pécheurs par Dieu, c'est le début de Romains 5, il fait une pause pour nous convaincre que nous pouvons être assurés de la présence et de la faveur de Dieu à l'avenir, quoi qu'il se passe. Pas moins de 3 fois, dans ce deuxième paragraphe de Romains 5, Paul dit à peu près la même chose. Quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Pour dire la même vérité à l'envers, Jésus n'est pas mort pour nous une fois que nous étions forts ou fortes. Il n'est pas mort pour nous une fois que nous avons commencé à vaincre notre péché. Dieu ne nous a pas réconciliés avec lui une fois que nous sommes devenus amis avec lui. Dieu ne nous a pas rencontrés à mi-chemin. Il a refusé de se retenir. Il a refusé d'être prudent. Il a refusé d'évaluer notre valeur ou la quantité de boue sur nos vies. Ça, ce n'est pas Dieu. Lui et son Fils ont pris l'initiative sur la base de la grâce et de la grâce seule, au mépris de ce que nous méritions. Alors que malgré nos sourires, notre politesse, nous fuyons Dieu aussi vite que possible, construisant nos propres royaumes, aimant notre propre gloire, nous délectant des plaisirs frauduleux, frelatés du monde, repoussés par la beauté de Dieu, fermant nos oreilles à ses appels à rentrer à la maison. C'est alors, dans l'horreur creuse de cette existence révoltante, que le roi des cieux a fait ses adieux à ses anges adorateurs. C'est alors qu'il s'est livré aux mains meurtrières de ces mêmes rebelles dans le cadre d'une stratégie divine planifiée depuis l'éternité pour venir purifier des pécheurs souillés et les serrer contre son cœur, malgré leurs tentatives désespérées pour se libérer et se purifier par eux-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire ? Christ est descendu dans la mort, tandis que nous applaudissions et dansions à notre gré. Nous n'aurions pas pu nous en soucier moins. Nous étions pécheurs, ennemis, perdus. Et ce n'est qu'après coup, une fois que le Saint-Esprit a envahi nos cœurs, que nous avons pris conscience de la réalité. Il a traversé ma mort. Il me veut à lui. Cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a expliqué ce qu'elle vit actuellement quand elle pense à Dieu, quand elle pense à l'Église. Puis elle m'a dit, j'ai quelque chose qui chauffe dedans et je ne peux pas faire autrement que de me mettre en route. C'est ça, le Saint-Esprit qui commence à envahir nos cœurs. Et Jésus n'est pas simplement mort. Il a été condamné pour que je ne le sois pas. Il n'a pas simplement quitté le ciel pour moi. Il a enduré l'enfer pour moi. Lui qui ne méritait pas d'être condamné, il l'a absorbé à ma place. Moi seul qui le méritais. Ça, c'est le cœur de Dieu, les amis. Et dans nos âmes vides, comme un verre d'eau fraîche pour une bouche assoiffée, Dieu a déversé son esprit pour que nous puissions intérioriser l'expérience de l'amour de Dieu. Quel était le but de cette mission de sauvetage céleste? Dieu montre son amour envers nous. Dieu le prouve. Le mot grec pour le verbe montrer ici signifie exposer de manière démonstrative, mettre en avant, rendre clair, rendre incontestable. Dans la mort du Christ, Dieu confronte nos pensées sombres à son sujet, notre insistance chronique à croire que l'amour de Dieu doit avoir une fin, une limite, un point où finalement Dieu va bien finir par s'épuiser avec moi. Christ est mort pour confondre nos suppositions intuitives selon lesquelles l'amour divin a une date d'expiration. Il est mort pour prouver que l'amour de Dieu est un océan sans rivage ni fond. L'amour de Dieu est aussi infini que Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'amour divin comme d'une réalité qui s'étend à une largeur, une longueur, une hauteur, une profondeur incommensurable. La seule chose dans l'univers qui soit aussi incommensurable que ça, c'est Dieu lui-même. L'amour de Dieu est aussi vaste que Dieu lui-même. Pour que Dieu cesse d'aimer les siens, il faudrait qu'il cesse d'exister. Parce que Dieu n'est pas simplement de l'amour, il est amour. Dieu nous aime comme ça, bien-aimé. Dieu nous aime comme ça, sans nuance, sans réserve, sans date de péremption. Il nous aime. Et nous pouvons bâtir notre vie entière sur cet amour. Aimer, accepter, en sécurité. Nous pouvons nous le dire les uns aux autres. En particulier quand c'est compliqué, quand on n'y croit plus. L'Église est là pour ça. On peut s'encourager, se confronter, prier les uns pour les autres. Parce que nous ne dérivons pas vainement dans le vide de l'univers, en espérant qu'à quelque part, il y a une puissance anonyme qui pourrait nous repérer. Non, nous connaissons le nom de Dieu, son identité, son dessein, son action en notre faveur, et plus important de tout, son amour infini pour nous. Amen.
Voilà, maintenant on aimerait prendre un temps pour louer Dieu, pour s'exprimer de différentes manières. Pour commencer, on va prendre la Sainte Cène pour exprimer notre attachement à Dieu, à cette communauté chrétienne. On va prier, on va chanter, on aimerait répondre à tout ce qu'on a entendu, peut-être que ça a soulevé des choses dans notre cœur. On l'a vu, hein, comment Dieu nous aime-t-il? Eh bien, il nous aime comme ça, à ce point-là. Moi, je suis toujours touché quand je regarde un film et puis qu'il y a quelqu'un qui se sacrifie pour quelqu'un d'autre, un héros qui va jusqu'à la mort pour que quelqu'un puisse vivre, que quelqu'un soit sauvé. À chaque fois, je pleure. Pourquoi? Moi, je crois que c'est parce que c'est l'histoire de l'humanité, simplement. Il y a quelque chose dans ce sacrifice, dans le fait de donner sa vie. Il n'y a pas plus précieux, il n'y a pas plus fort. On ne peut pas aller plus loin que ça. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler alors que nous prenons la Sainte Cène. Tu peux t'approcher, Philippe. On va prendre un peu de pain qui nous rappelle son corps. Nous allons boire un peu de fruit de la vigne qui nous rappelle son sang qui a été versé à la croix. Et puis alors que nous partageons cela, nous lui disons merci, merci pour ce que tu as fait, merci parce que tu nous aimes à ce point-là. J'accepte ton amour et puis je te demande pardon parce que oui, je ne suis pas encore arrivé à destination, mais tu me laves, tu me purifies. par ton sang, par ton corps qui a été cloué à la croix. Je demande aux jeunes de s'approcher et puis on va distribuer cela. Pendant ce temps, sentez-vous libre de prier, exprimer ce que vous voulez à Dieu, que ce soit des remerciements pour son amour, que ce soit des questions. Soyons honnêtes dans nos prières avec Dieu. Moi, j'ai appris avec le temps à être de plus en plus honnête dans mes prières devant Dieu. Il n'a pas peur d'entendre nos prières, même parfois des choses dures, difficiles. Je crois qu'il nous entend. Chantons ébloui. Thank you. Presque tous les jeunes pouvez vous relever et puis venir pour l'offrande. C'est une offrande qu'on fait de bon cœur, librement. Comme Philippe l'a dit avant, il n'y a pas beaucoup d'obligations. On donne simplement parce qu'on aime, parce qu'on a envie d'être généreux, parce que ça nous semble normal de répondre à cet amour de Dieu. Mais sentez-vous vraiment libre durant ce temps. Vous pouvez passer avec les sachets dans les rangs. Johan, je t'invite à t'avancer déjà. Une ou deux annonces rapidement. Vous rappelez déjà que mercredi à 17h, il y a le temps de prière communautaire. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour ce temps. Et puis vous rappelez aussi que vendredi, il y a le colloque. Et puis je vais laisser Johan dire deux mots.
Oui, donc le colloque, pour vous rappeler, vendredi soir, vendredi 3 octobre à 19h30. Un sujet important, c'est une redistribution d'une partie de notre surplus. Et on vous a mis dans l'invitation justement à nous communiquer si vous voyez des besoins à un endroit pour exercer notre générosité avec ce surplus, ce qu'on appelle l'excédent en termes budgétaires, pour qu'on puisse redonner en tout cas en partie et puis qu'on puisse venir en tout cas vendredi avec déjà des propositions de répartition comme on l'a eu fait certaines années précédentes. Donc on s'est un peu fixé une date à mardi pour qu'on ait le temps un petit peu de voir comment est-ce qu'on peut vous faire une proposition sur votre base à vous, parce que c'est la générosité de chacun qui s'exerce dans l'Église. Donc voilà, c'est un élément important pour nous, parce qu'on aime bien que la communauté puisse dire quelque chose, puisse proposer pour cette redistribution. Et bien sûr, tout le monde est invité à ce colloque, cette assemblée générale. Il y a toujours des thèmes et des sujets importants, parce que c'est aussi, ça peut paraître administratif, mais c'est aussi des bons moments de discussion sur notre Église, sur la manière dont elle peut avancer, comment elle peut évoluer, quelques nouvelles aussi de les différents groupes qui constituent cette église, parce que cette église, si elle vit, c'est parce que chacun de vous met le cœur à l'ouvrage pour que, comme ce matin, on puisse avoir un culte où tout se déroule bien, mais il y a un énorme travail qui est fait par des bénévoles derrière. Merci.
Merci. Voilà, les enfants, vous avez juste à temps pour la fin, c'est magnifique. On peut se relever, si vous voulez bien, je vais prier. Et puis, vous envoyer dans cette semaine à venir. Seigneur, merci, merci pour ton amour. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Certains ici en sont peut-être convaincus, d'autres, voilà, le ressentent peut-être pas encore. Seigneur, je te prie pour chacun, chacune d'entre nous. Je prie qu'on puisse ressentir ton amour aujourd'hui, demain, cette semaine, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Que ton amour soit de plus en plus tangible dans nos vies, parce qu'on sait qu'il porte du fruit. Il nous aide à aimer nos voisins, nos voisines, nos collègues. Il nous pousse à faire le bien autour de nous. Il met comme une fondation solide dans notre vie, Seigneur, cet amour inconditionnel. Merci pour ton amour, merci pour la croix, merci pour ton amour qui se manifeste de plein de manières dans nos vies. Aide-nous à en être conscients et à le voir. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, ne partez pas trop vite, il y a toujours le thé, café qui vous est offert à la fin. On aura du plaisir à vous rencontrer. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.